8h sur France Culture. Bienvenue si vous nous rejoignez. Voici le journal d'Amélie Perrier. Bonjour Amélie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Pas de trêve pour Alep. La Russie et la Chine ont posé leur veto à une nouvelle tentative de faire cesser les combats dans la ville martyre en Syrie. Récit d'une impasse diplomatique au siège de l'ONU.
Et nous irons en Syrie, à Alep, où notre envoyée spéciale Valérie Crova a pu accéder à des quartiers reconquis par les soldats du régime de Bachar al-Assad.
Quelques jours de sursis pour Matteo Renzi. Le président italien lui a demandé de reporter sa démission à la fin de la semaine, le temps que le budget de l'an prochain soit voté.
En France, nous reviendrons sur une autre démission, celle de Manuel Valls. Mais cette fois pour se lancer dans la course à la présidentielle, nous tenterons de voir les forces et les faiblesses de sa candidature à la primaire de la gauche.
Et la France dont on regarde aujourd'hui le classement, d'abord dans l'enquête PISA sur le niveau des élèves à l'école, et le classement aussi parmi les plus prospères vendeurs d'armes de la planète. Aveu d'échec et d'impuissance, la diplomatie discréditée aujourd'hui face au drame de la Syrie. Pour la 6e fois depuis le début du conflit, la Russie, alliée indéfectible du régime de Bachar al-Assad, a posé son veto à une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Blocage également de la Chine pour un projet de trêve de 7 jours à Alep, la ville martyre où tentent de survivre les derniers opposants au pouvoir. Compte rendu d'abord aux États-Unis de Frédéric Carbone.
Cette fois-ci, la langue de l'impuissance des Nations Unies est l'espagnol. Le pays préside le Conseil de sécurité et il est à l'origine de ce projet de résolution sur la Syrie, rejeté une nouvelle fois, la 6e depuis le début du conflit.
11 votes à favor, 3 votes contre.
3 voix contre, la Chine et le Venezuela ajoutent la leur à celle de la Russie pour refuser une semaine de trêve des combats. Mais c'est bien l'attitude de Moscou que dénonce à la tribune François Delattre, l'ambassadeur de France à l'ONU.
En s'opposant à un texte pourtant très modéré, la Russie a fait le choix de rester sourd aux appels de la communauté internationale et de poursuivre dans son soutien aux efforts du régime syrien visant à prendre Alep, quel qu'en soit le coût humain.
Pas question donc du moindre répit, les bombardements se sont encore intensifiés à Alep pendant cette réunion du Conseil de sécurité. La Russie ne veut pas d'action internationale. Plus que jamais en position de force, Moscou ne veut négocier qu'avec les États-Unis. Les ministres des Affaires étrangères des deux pays doivent se retrouver dans les heures qui viennent à Genève et il ne s'agit même plus de faire taire les armes, mais de discuter d'un retrait des rebelles d'Alep, une reddition militaire et une humiliation diplomatique.
Humiliation diplomatique donc à l'ONU et pendant ce temps sur le terrain, en Syrie, la population continue de vivre un calvaire bloqué sous les bombes du régime. L'armée d'Assad a repris plusieurs quartiers d'Alep depuis une semaine. C'est le cas d'Anano, où a pu se rendre l'envoyé spécial de France Culture, Valérie Crova. Écoutez son reportage.
Des bus affrétés par les autorités syriennes amènent des habitants de retour dans leur quartier. Chacun doit déposer une pièce d'identité avant de pouvoir retourner dans sa maison. Une jeune femme descend du bus accompagnée de son fils et de son mari. Ça fait 5 ans qu'on est parvenu à Anano. Depuis le début de la crise, en 2012, on a quitté notre maison dès que les rebelles sont arrivés. On espère retrouver des meubles, on est fatigué. Cet enfant ne connaît pas sa maison. On a même oublié comment on peut arriver chez nous. Tout a changé. Il y a beaucoup de destruction, beaucoup. La maison de ce jeune couple est située tout au fond d'Anano. Difficile de se repérer au milieu des immeubles éventrés par les bombardements. Nous arrivons près d'un barrage de l'armée syrienne.
Non.
Nous n'irons pas plus loin. Des combats se déroulent juste à côté, à Shahar, un quartier d'Alep Est que l'armée syrienne tente de reprendre aux combattants anti-Bachar. Nous croisons un autre habitant d'Anano. Il porte dans ses bras des galettes de pain. Ma maison a été détruite. S'il restait quelque chose, tout a été volé. Ma femme est morte. Elle a été tuée par un missile qui a été tiré par un avion. Elle regardait le ciel et elle m'a dit « Regarde, regarde !» Je lui ai dit de rentrer à l'intérieur, mais je n'ai pas eu le temps de finir ma phrase. Elle est morte avec ma voisine. Ce sont des victimes collatérales des raids aériens qui visaient les rebelles.
Ils étaient autour de votre maison ?
Les rebelles avaient une fabrique d'armes 3 rues après ma maison. Ils habitaient à côté avec leur famille. Moi, j'étais restée pour surveiller ma maison et tout ce qu'il y avait à l'intérieur. On est sorti à cause des frappes, on a eu peur, on a voulu s'échapper. Une grande lassitude se lit dans le regard de cet homme qui ne pourra pas revivre dans son quartier avant de longs mois ou peut-être même des années.
Le reportage de Valérie Crova à Alep en Syrie pour France Culture. Toujours à l'étranger, ce revers pour les djihadistes de Daesh. Ils ont perdu Sirte en Libye. Nouvel échec militaire pour le groupe terroriste déjà à la peine en Syrie et en Irak. Cette fois, il a dû reculer face aux assauts des forces loyalistes libyennes aidées par l'aviation américaine. Pas de justice pour un noir tué par un policier blanc aux États-Unis. Faute de consensus du jury, le procès d'un ancien agent a été annulé hier. Le meurtre de Walter Scott, abattu de dos alors qu'il s'enfuyait après une infraction au code de la route, fait partie de ces dossiers qui ont relancé la colère de la communauté noire et du mouvement Black Lives Matter. Un nouveau procès devra se tenir s'inédit. Une victoire pour des tribus indiennes en Amérique. Les autorités leur ont donné raison hier en annulant le tracé d'un oléoduc dans le Dakota du Nord. La conduite de pétrole de schiste menaçait des terres sacrées des Amérindiens, des Sioux notamment, soutenus par des militants écologistes. Une victoire temporaire toutefois, car l'arrivée au pouvoir de Donald Trump en janvier pourrait relancer le chantier. Selon plusieurs médias américains, le futur président possède des parts dans la société en charge de l'oléoduc. Fin de règne pour Matteo Renzi en Italie, mais une fin de mandat légèrement différée. Après l'échec de son référendum, le Premier ministre a présenté sa démission au président Mattarella hier, mais ce dernier lui a demandé de reporter sa décision jusqu'au vote du budget 2017, a priori à la fin de la semaine. Quelques jours de sursis pour Renzi, raconté par notre reporter à Rome, Marie-Pierre Véraud.
Les institutions ont un rythme qu'il s'agit de respecter. Pour le président Mattarella, le plus urgent est de voter définitivement le budget qui n'a été adopté que par la Chambre des députés. Et c'est pour cela qu'il a demandé à Matteo Renzi de rester encore à son poste. Le budget doit être adopté avant le 31 décembre et d'évidence, le président a estimé qu'il serait périlleux d'attendre la formation d'un nouveau gouvernement qui pourrait se faire attendre. Le temps est donc un peu suspendu avant la démission effective de Matteo Renzi, qui devrait intervenir dans quelques jours. De nouvelles consultations vont alors se nouer pour lui trouver un successeur. Et l'Italie a bien besoin d'un peu de temps supplémentaire. Il est en effet plus facile de s'unir pour faire chuter Renzi que de trouver une personnalité à même de recueillir l'assentiment des deux chambres. Tant ce référendum a porté la division. Le ministre des Finances serait pressenti comme futur président du Conseil afin de rassurer les marchés et l'Europe. Mais c'est une figure importante du gouvernement Renzi qui vient de subir un cinglant camouflé. Alors, le président du Sénat, les spéculations vont bon train. Pendant ce temps, le mouvement 5 étoiles continue à pousser pour l'organisation de nouvelles élections dès le début de l'année prochaine. Il faut, dit-il, rassembler ce pays divisé et lui redonner la parole. Le mouvement 5 étoiles qui entend pousser ses feux alors qu'il a le vent en poupe, il prépare déjà sa plateforme électorale et rôde ses arguments.
Marie-Pierre Véraud à Rome.
8h07 sur France Culture. La suite du journal Amélie Perrier. Pendant que la gauche plie bagage en Italie, en France, Manuel Valls espère l'incarner et la rassembler pour l'élection présidentielle de l'an prochain.
Oui, le Premier ministre va démissionner aujourd'hui. Il quitte Matignon pour se lancer dans la course à l'Élysée. Manuel Valls a annoncé sa candidature hier soir sur ses terres politiques à Évry, en Essonne. Un mot d'ordre, le rassemblement. Pas évident pour celui qui avait évoqué les gauches irréconciliables. Pas évident non plus de se retrouver en première ligne pour défendre le bilan du quinquennat, maintenant que François Hollande a renoncé. La candidature du chef du gouvernement a donc des points faibles, mais aussi des points forts. Et certains analystes suggèrent même qu'elle a les défauts de ses qualités. Et inversement, Ilan Malka.
Le côté très autoritaire de Manuel Valls lui est par exemple souvent reproché. On parle de froideur à son égard, on décrit régulièrement un homme sec, cassant. Et pourtant, le politologue Laurent Bouvet estime que sa force, son atout principal, est justement dans cette fermeté.
Sur, disons, les questions républicaines, la laïcité, la question du pouvoir régalien, il s'est emparé de tout cela comme ministre de l'Intérieur puis comme Premier ministre pour incarner véritablement ce pouvoir régalien. On a aujourd'hui, dans l'opinion française, on le voit dans les enquête d'opinion, une demande d'autorité. Je pense qu'à gauche, Manuel Valls est celui qui répond le mieux à cette demande.
Parmi les qualités attribuées à Manuel Valls, on parle aussi de la clarté de sa ligne. Il est à l'aile droite du PS, il l'a ouvertement assumé, par exemple avec la loi travail ou encore avec sa politique de redressement des comptes publics. Seulement voilà, selon Henri Rey, qui est chercheur à Sciences Po, Cevipof, il incarne aussi un courant dont l'actualité même très récente montre un rejet.
On a plutôt affaire au social-libéralisme, on a affaire plutôt à la politique de l'offre, on a plutôt affaire à la politique d'austérité également, une logique de troisième voie, une logique à la Renzi, etc., dont on voit que le succès n'est pas forcément au rendez-vous en Europe. Il semble qu'il y ait un tournant, mais qu'il soit pris à un niveau international, non seulement par les opinions, non seulement par les militants des partis, mais y compris par les autorités financières.
Enfin, le fait d'avoir été Premier ministre pendant 2 ans et demi est également à double tranchant pour Manuel Valls. Cela confère une légitimité à sa candidature et lui donne une force institutionnelle, mais le rend également comptable d'un bilan très critiqué.
Et le premier meeting du candidat Valls est déjà inscrit dans les agendas. Ce sera demain à Audincourt, dans le Doubs, ancienne circonscription du commissaire européen Pierre Moscovici, où s'étaient affrontés le PS et le Front National l'an dernier lors d'une législative partielle, un FN en plein essor dans la région. C'était le candidat socialiste qui l'avait emporté donc pour ce siège de député pour remplacer Pierre Moscovici. Et face à la montée en puissance du FN ce matin dans Libération, une quinzaine de personnalités signent une tribune pour demander une seule primaire à gauche pour que tous les candidats, d'Emmanuel Macron à Jean-Luc Mélenchon, écrivent-ils, se rencontrent pour transformer la primaire organisée par le PS en une véritable primaire de toute la gauche. Tribune signée par l'économiste Thomas Piketty, l'avocat William Bourdon ou encore par la sociologue Dominique Méda. Et voilà un sujet hautement sensible dans une campagne. En tout cas, la ministre Najat Vallaud-Belkacem pourrait avoir une lecture très politique de la publication aujourd'hui de la dernière enquête PISA. Il y a 10 jours, elle avait déjà pointé les mauvais résultats des élèves français sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. PISA, c'est donc une étude publiée tous les 3 ans pour comparer les résultats dans les établissements scolaires de 72 pays. Et cette année, elle porte en particulier sur les sciences, Hakim Kasmi.
Les tests sont réalisés sur ordinateur par des centaines de milliers d'élèves à travers le monde. Tous sont âgés de 15 ans, c'est la règle. Plus qu'un test, PISA évalue le niveau des élèves par rapport à leur milieu social, ce qui permet aussi de mesurer l'équité. Si l'Asie, avec la Chine, la Corée ou encore Singapour, et en Europe, la Finlande avait trusté les premières places du classement, la dernière enquête montrait qu'en France, les inégalités n'ont cessé de se creuser. Éric Charbonnier, responsable éducation à l'OCDE.
Si on regarde les résultats de PISA 2012, on a une France dans la moyenne des pays de l'OCDE, ce qui est au fond pas si catastrophique, mais qui n'est pas au niveau auquel on pourrait s'attendre pour le système d'éducation, avec beaucoup d'inégalités sociales, des élèves très performants, et puis un échec scolaire qui avait augmenté en mathématiques.
En attendant, à quelques mois de la présidentielle, les résultats qui seront publiés ce matin ne manqueront sans doute pas de prendre une dimension politique. Car s'ils ne sont pas bons, Najat Vallaud-Belkacem, la ministre de l'Éducation, expliquera sans doute que les élèves évalués par PISA ont commencé leur scolarité sous la droite dans les années 2000, avant la refondation de l'école.
Un autre classement où cette fois la France tire son épingle du jeu. On a commencé ce journal par le drame de la guerre et l'impuissance des diplomaties, mais la multiplication des conflits dans le monde, tout à fait cyniquement, c'est aussi une manne financière pour l'industrie de l'armement. Selon le CIPRI, l'Institut de recherche sur la paix dans le monde, les 100 premières entreprises mondiales réalisent plus de 370 milliards de dollars sur les ventes d'équipements militaires. Les États-Unis occupent le haut du classement donc. Et la France, elle, grignote des parts de marché. Elle pourrait devenir le 2e exportateur mondial d'armes. Les précisions de Jean-Marc Chardon.
Au train où vont les commandes, ce sera peut-être pour 2018. C'est la tendance qui se confirme après une année 2015 très faste pour les industries d'armement et 2016 qui s'annonce tout aussi fructueux en nombre et en volume de contrats. Il y a déjà un cap qui vient d'être franchi. Pour la première fois, les entreprises du secteur ont conclu davantage de nouveaux contrats avec des clients étrangers qu'avec l'armée française. En un an, on a assisté à une hausse de 13% des ventes d'armes alimentées par des contrats avec l'Arabie Saoudite, l'Égypte, le Qatar. Et cette hausse, elle est en train de se poursuivre avec des ventes d'hélicoptères au Koweït, de Rafale à l'Inde, de sous-marins à l'Australie. Des ventes d'armes qui se focalisent vers le Proche, le Moyen-Orient et vers l'Asie et qui joue comme une garantie d'emploi pour quelques 165 000 personnes employées dans quelques 4 000 entreprises de l'Hexagone. C'est aussi une partie de l'emploi industriel qui est en jeu, au moins 4%, un argument que ne manquent pas de brandir les promoteurs de l'armement à l'heure où la Chine monte en puissance, elle-même talonnée par la Corée du Sud sur les marchés extérieurs.
Un hommage rendu ce matin à Paris à Malik Oussekine. C'était il y a 30 ans, dans la nuit du 5 au 6 décembre 86. Et le nom de cet étudiant, mort lors d'une manifestation contre la loi de Vaquet, a profondément marqué la mémoire collective. Il est devenu le symbole des violences policières, le symbole aussi de tout ce que veulent éviter aujourd'hui forces de l'ordre et politiques quand une loi jette des manifestants dans la rue. Paris, aussi l'air était respirable, mais pour d'autres raisons, à cause de la pollution. Finalement, la mairie a obtenu gain de cause. La préfecture a consenti à instaurer aujourd'hui dans la capitale et la petite couronne la circulation alternée. 6 décembre, jour pair, et donc seuls les véhicules immatriculés avec des numéros pairs sont autorisés à rouler. Un moyen de faire baisser a priori de 10 à 15% la pollution aux particules fines et au dioxyde d'azote. On finit justement par le temps de ce mardi, calme et gris, nous dit Météo France. De la pluie quand même en Corse, des brouillards ce matin dans de nombreuses régions. Les minimales restent de saison, 0 à moins 3 degrés au nord, 0 à 7 degrés sur le reste du pays. Cet après-midi, comptez 4 degrés à Nancy, 10 degrés à Calais, 11 à Paris, 14 à Quimper, 16 à Montpellier, 17 degrés à Bayonne. Édition préparée avec Moussa Léchili.